Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'événement de cette rentrée 2020, le tout premier prix littéraire Voix d'Afrique au pluriel, co-organisé par RFI, les éditions Jean-Claude Lattès et la Cité internationale des arts, vient d'être annoncé cette semaine. En effet, à l'issue d'un concours d'écriture destiné à toute personne majeure de moins de 30 ans n'ayant jamais publié, auquel se sont intéressés plus de 8000 internautes et qui a sélectionné 372 manuscrits venant du Cameroun, du Maroc, du Sénégal ou encore du Mali, entre autres, un jury présidé par l'écrivain Abdourahmane Waberi a donc choisi son lauréat. Et grâce à ce prix, l'auteur a donc la chance de voir son roman publié par les éditions Jean-Claude Lattès et venir en France pour la sortie du livre en librairie et une résidence à la Cité internationale des arts. Bonjour Yaya Diomandé.
Bonjour madame.
C'est donc vous, l'heureux élu, le tout premier lauréat de ce prix Voix d'Afrique, et vous êtes arrivé ce lundi de Côte d'Ivoire où vous vivez. Comment ça va ?
Ça va très bien.
C'est la première fois que vous êtes en France ?
Tout à fait, la première fois en Europe d'ailleurs.
Et alors ?
Déjà très heureux d'être accueilli par la Cité internationale des arts de Paris, qui nous a offert cette résidence. Et surtout, heureux aussi d'être là, grâce aux éditions J.C. Lattès et à RFI.
C'était un rêve de venir à Paris ?
Oui, un rêve pour tout jeune Africain qui aspire, pourquoi pas, à venir voir aussi quand même ce grand pays qui est la France.
Avant de parler avec vous de ce roman donc qui a été récompensé, est-ce que vous voulez bien nous parler de vous, Yaya Diomandé? Qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Où vivez-vous? Et que faites-vous?
Ok, je suis Yaya Diomandé. Je suis traducteur freelance et je suis blogueur. J'ai un journal que j'administre en Côte d'Ivoire, un journal en ligne dénommé Investissement Plus. Et je vis à Abobo et même à Abobo Malé. Et heureusement, c'est le titre de l'œuvre. Je vis à Abobo Malé et c'est tout ce que je fais.
Quand vous dites traducteur, de quelle langue à quelle langue ?
Anglais, français, français, anglais. Et entre autres, je parle aussi d'autres langues, notamment l'espagnol et un peu d'arabe.
Et voilà. Votre langue maternelle ?
Évidemment, je parle ma langue maternelle, je parle djoula parfaitement. Voilà.
Et en effet, il y aura des extraits dans le roman qui sont dans votre langue maternelle.
Oui, effectivement, aussi bien en djoula qu'en nounsi. Nounsi qui est le l'argot ivoirien et qui est vraiment... Vraiment la particularité de ce roman d'ailleurs, parce que il y a assez de passages en nounsi en fait, qui est une langue parlée à Abidjan, surtout à Bobo.
Voilà, donc un roman à la fois en français et aussi dans les langues parlées en Côte d'Ivoire. Vous avez quel âge déjà, Yaya Diomandé?
Oui, j'ai 30 ans.
Vous avez 30 ans tout pile, donc il était...
Voilà, bientôt j'aurai 30 ans, disons, en décembre.
Alors, vous écrivez depuis longtemps?
Oui, depuis le lycée déjà, on écrivait. Mais c'est surtout au niveau du supérieur que j'ai commencé à écrire réellement, notamment en 2010, où j'animais un blog sur Skyrock. Je peux citer le nom ici, c'est
bien
possible.
Sûr.
Ok, sur skyrock.com, j'avais un blog où j'ai publié à tout moment mes poèmes, j'écrivais des nouvelles avec des petits romans, des petits bouts de texte parfois que j'ai pas pu publier jusqu'en 2011, où j'ai commencé à écrire ce roman.
Abobo Marley a déjà été présent dans votre tête il y a bientôt 10 ans, donc.
J'ai commencé à l'écrire même réellement en 2011, en septembre 2011, quand j'étais encore ouvrier à la zone industrielle de Yopougon, où on était docké, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à écrire le roman progressivement, de septembre 2011 jusqu'en mai 2015. C'est à ce moment que j'ai fini la rédaction de l'œuvre.
Et pourquoi est-ce que vous avez envie d'écrire Yaya Diomandé?
J'aimais beaucoup lire. Quand j'étais au lycée, je lisais suffisamment. Bon, j'avais la chance d'avoir des amis, en fait, qui étaient dans le collège catholique. Et moi, issu d'une famille très pauvre, c'était difficile d'avoir des romans, en fait. Alors, mes amis qui étaient surtout au collège, je peux citer le nom ici du collège, le collège Saint-Henri-de-Osso, à Mans, au quartier Air France. J'avais des amis qui étaient dans ce collège-là et qui avaient accès à leur bibliothèque. Alors, à tout moment, ils m'envoyaient au moins des romans que je lisais. Moi, je n'avais pas l'argent pour acheter des romans, mais eux, au moins, ils pouvaient l'avoir pour 2 semaines et ils n'aimaient pas lire. Alors, ils me l'envoyaient, moi, je les lisais à tout moment et après, je leur rendais leur livre. Et à chaque fois, y a eu la chance au moins chaque semaine au moins d'avoir assez de livres pour lire en fait. Et en lisant, quand on finit d'accumuler assez, on a parfois envie de rendre. Et c'est cette envie de rendre là qui m'a poussé à écrire en fait.
Et vous lisiez quoi par exemple?
Bon, un peu tout ça de romans. Hein. Isaïe Bitton Koulibaly, qui est un auteur ivoirien, Amadou Ampateba, Kourouma, c'est tout.
Ah, donc Amadou des grands Kourouma. Auteurs du continent africain.
Ah oui, 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 oui.
Et donc, vous aviez envie d'être écrivain? Vous rêviez d'être publié ou c'était très loin encore comme idée pour vous?
C'était même hors de portée en fait. C'était hors de portée. Écrire, oui, mais publier, franchement, pour ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, ils savent la réalité de là-bas. Alors, moi, j'écrivais pour écrire, espérant un jour, en tout cas, bon, avoir la chance en fait, d'être publié. Quoique, sachant que c'était pas vraiment évident de rêver ainsi. Alors, on peut bien rêver, écrire, certes, mais publier, c'était pas vraiment un rêve à ce moment.
Vous diriez que c'est difficile aujourd'hui de se faire éditer en Côte d'Ivoire, Yaya Diomandé?
Difficile, c'est trop souple. Ah oui, je le dis, c'est trop souple. C'est quasi impossible. Ce roman que vous voyez, par exemple, le titre, c'était Bengue, le rêve d'un petit abobolais. Les membres du jury peuvent bien le témoigner. Bengue qui veut dire l'Occident, voilà l'Europe. Je l'ai déposé dans quasiment toutes les maisons d'édition de chez moi, en Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours des retours négatifs, disant que l'œuvre n'était pas de qualité, elle n'était pas bonne. Alors, partout, l'œuvre a été rejetée. Seulement, une seule maison d'édition ivoirienne a voulu publier l'œuvre pour moi et m'a dit de payer environ 2000 euros pour la publication.
Donc c'était de l'auto-édition?
Quasiment. Alors, un chômeur à qui on dit de venir payer 2000 euros, croyez-moi, c'est quasi impossible en fait. Alors publier en Côte d'Ivoire, c'est très difficile.
Mais il y a néanmoins un réseau de maisons d'édition ivoiriennes.
Un grand réseau d'ailleurs. Un grand réseau, mais chez nous, l'édition, la littérature meurt de plus en plus, car aujourd'hui, les maisons d'édition de chez nous ne font que imprimer des œuvres des manuels scolaires, en fait, et qu'elles vendent. C'est tout ce qu'elles font et c'est ce qui est plus rentable, en fait. Parce qu'on sait au moins qu'à tout moment, lorsqu'on produit des manuels scolaires, les élèves vont en acheter et là, ça vend plus. Mais les romans meurent de plus en plus.
Il n'y a pas de place pour la fiction, pour la littérature?
Très peu de place, d'ailleurs.
Parce que ce n'est pas assez rentable?
Même pas rentable.
Mais est-ce qu'il y a un public pour lire des romans?
Encore faut-il qu'il y ait un public.
Oui.
Parce qu'il n'y en a pas en fait. On est à l'aide des réseaux sociaux, Facebook et autres. Alors bon, très peu de jeunes lisent. Les anciens aussi lisent peu, il faut le dire.
Donc vous êtes un résistant alors?
On peut le dire ainsi si vous pensez, hein, si vous pensez.
Alors racontez-nous, comment est-ce que vous avez entendu parler de ce concours Voix d'Afrique?
Je suis, on va dire, hein, un accro de RFI. Chaque jour, j'écoute RFI. Je me lève à 4h du matin, heure d'Abidjan, pour suivre les infos économiques et autres, puisque j'ai un journal qui traite de tout ce qui est lié au business. Alors, à chaque fois, j'écoute RFI. Et lorsque le prix a été lancé, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je suis allé sur la plateforme. J'avais déjà le roman qui était déjà écrit depuis très longtemps. J'essaie de m'inscrire sur la plateforme et d'envoyer mon œuvre, et ça n'est passé même pas.
Ouais. C'est-à-dire, il y avait des problèmes de connexion?
Bon, sûrement que c'était lié à la plateforme. Quand j'ai fait à plusieurs reprises, ça ne passait pas. J'étais même découragé. J'ai un ami qui m'a dit, mais écoute, fonce encore, c'est possible, fonce. Et par la suite, c'est parti ainsi.
C'est ainsi, en effet, que l'aventure a commencé. Donc, comme 8000 personnes, vous vous êtes connectés sur cette plateforme qui accueillait tous les prétendants à ce prix en déposant un manuscrit.
Évidemment.
Et comment ça s'est passé alors? J'imagine que vous étiez impatient d'apprendre le résultat. Mais comment, justement, avez-vous appris la nouvelle?
J'étais chez moi, à la maison, pendant le confinement. Et j'ai reçu le mail le 3 avril 2020. Et là, vous ne pouvez pas imaginer. Parce que quand vous voyez que votre œuvre a été rejetée partout, et là, ailleurs, hors de chez vous, le pays que vos grands de chez vous, là, j'ai dit en griffe, prennent pour référence, là, reconnaissent vraiment votre travail qui a été fait, quoique déjà n'ayant pas encore été lauréat, encore parmi les 5 finalistes, mais c'était... Il ne sait quoi dire parce que j'étais tellement heureux, j'étais dépassé carrément. J'ai appelé mon frère aîné, ma mère, mais mon père même, je lui ai dit, je suis en finale pour un concours. Il me dit, c'est lequel? Il dit, c'est un concours littéraire en France. Et là, ils étaient tout contents aussi. Maintenant, le lendemain, le 4 avril, J'ai reçu un autre mail qui me disait que j'étais le lauréat. Le lauréat du concours. Et là, avec tout ce qu'il y avait comme privilège et autres, c'est-à-dire résidence à Paris, édition de l'œuvre, avec la promo à RFI et autres, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai préféré me taire là parce que là, c'était une grande joie chez moi. Ma mère était au village, elle a pris cela, elle était tellement contente. C'était grand en fait. Parce que vous ne pouvez pas imaginer quelque chose. Quand vous êtes un élève brillant chez nous, moi j'étais très brillant à l'école, j'ai eu le bac littéraire, le bac A2 pendant que j'étais en première, j'ai pas fait la classe de terminale. J'ai eu deux différents BTS, finance comptable et transport logistique en 2010, finance comptabilité en 2014. J'ai eu aussi une maîtrise en droit privé à l'université de Cocody. Alors quand vous êtes aussi brillant et que vous n'arrivez pas à avoir un job, vous n'arrivez pas à vous en sortir socialement, vous devenez la risée de tous en fait. Et ce prix-là m'a permis quand même de changer un peu le regard des gens sur moi. Quoique déjà, d'abord finaliste, puisque ce n'était pas encore officiel, c'est jusqu'à présent, ce n'est pas encore officiel, au moins déjà être finaliste, alors le regard a changé sur moi. Parce qu'on dit, ah, bon, il est intelligent à l'école, il parle anglais, il parle espagnol, mais excusez-moi de parler un peu en ivoirien, mais on fait quoi à ça? On fait rien à ça. On ne mange pas anglais. Il parle telle langue, il écrit les romans. On ne fait rien à ça, bien ici. Tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent. C'est ça, en fait. Et là, même, quand je prenais mon vol et je venais, ça a vraiment épaté assez de personnes parce qu'ils pensaient que, j'étais vraiment très, très, derrière, en fait. J'étais en retard sur mon âge, en retard socialement. Ça les a touchés. Et ce, grâce à quoi? Grâce à ce prix, au prix Voix d'Afrique. Alors, merci seulement. Je ne peux que dire merci.
On entend votre émotion, hein, Yaya Diomandé, en nous racontant cela. Alors, j'imagine que vous avez fait la fête. Est-ce que justement, là, on va faire une petite pause musicale dans l'émission. Est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez particulièrement et qu'on pourrait diffuser maintenant, qui vous ferait plaisir?
Une chanson?
Oui.
Ah oui, pourquoi pas. Kerry James, 28 décembre 77.
Et pourquoi?
Parce que là, Kerry parle de la misère qu'il a traversée. C'est un rappeur français, vous le connaissez sûrement, Kerry James. Il parle de la misère et surtout la manière sa mère s'est battue pour lui et sa sœur. Et là, ça me touche. Parce que quand je vois que nos pauvres mères se battent pour nous, nos pauvres mamans, nos parents et autres, c'est profond en fait.
Alors c'est parti, on écoute Kerry James.
28 décembre 77, aux abîmes Chenet. J'ai une famille plus proche des pauvres que d'être fortunée. Mes parents sont originaires d'Haïti, terre indépendante que mon cœur a choisi pour pays. La plupart de mon enfance, je l'ai passée auprès de ma mère. Je peux pas ne pas mentionner qu'elle surmonta beaucoup de galères. Et elle continue à ramer, trimer jusqu'à 7 heures. Sur une main, je peux compter le nombre de fois que je l'ai vue en pleurs. On nous fit venir en France au prix de nombreux sacrifices, pensant que la France était terre de réussite. Octobre 85, dans ce pays, j'atterrissais. Le temps était gris et j'ignorais ce qui m'attendait. Souvent les parents pour leur gosse de l'ambition. Ainsi ma sœur et moi on s'est retrouvés en pension. Loin de ma mère, tu le sais, enfant sa mère. De ses enfants pour une mère, vie amère. Éloignée d'elle, le temps qu'elle construit ses repères. Jusqu'à ce qu'elle nous récupère. Mais on a quitté la pension pour venir vivre à Orly. Est-ce que j'ai vu ce jour-là? A sûrement changé ma vie. Dans un pavillon, ma mère louait une seule pièce. Carré d'eau séparé, 30 mètres carrés au plus. Dans ce truc-là, on était 5 vivant dans la promiscuité. Ouvrir un frigidaire vite, me demande pas si je sais ce que c'est. Mais maman nous a jamais laissé crever de faim. Maman a toujours subvenu à nos besoins. Pour notre bonheur, elle a sacrifié le sien.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI pour une émission très spéciale aujourd'hui, puisque nous accueillons le tout premier lauréat du prix Voix d'Afrique, au pluriel, je le précise à nouveau, un prix littéraire qui veut faire émerger les nouvelles plumes du continent africain et qui, pour cette première édition, vient de récompenser le jeune auteur ivoirien Yaya Diomandé pour son roman publié aux éditions Jean-Claude Lattès sous le titre Abobo Marley, qui désigne un quartier d'Abidjan, un quartier très particulier, n'est-ce pas, que vous connaissez bien. Racontez-nous.
Abobo Marley, que dire? Abobo, déjà, c'est la commune la plus peuplée d'Abidjan. Et le Marley est le quartier vu comme le quartier, historiquement, le quartier le moins sécurisé, en fait, de cette commune.
Où voilà. Il y a beaucoup de violence.
Beaucoup de violence.
De trafic.
Ah oui, tout ce qu'il y a comme fumoir, agression et autres. tout y est et tout se trouve là. Bon, avec le temps, les choses sont améliorées, mais quand même, l'habitude reste toujours. Voilà, Abu Omar, c'est ce quartier qui est vraiment atypique. Mais bizarrement, ceux qui y vivent ne voient pas forcément ce côté, en fait. Parce que nous qui vivons là, certes, nous ne voulons rester à Bohomale, mais comme on n'a pas le choix, on est là, et puis on s'habitue avec le temps, on s'est habitué à connaître les codes et autres. Et donc parfois, nous qui sommes là, nous sommes épargnés, en fait. Voilà. Donc tout ce qui est violence, agression et autres, quand même, se trouve un peu.
Et donc là, à Abobo Marley, ce quartier que vous connaissez bien, Yaya Diomandé, on fait la connaissance de Kone Moussa, alias Moses, qui est un petit garçon de 10 ans, cireur de chaussures. Il veut gagner de l'argent pour aider sa maman.
C'est ça.
Financièrement, parce que son père, il n'est pas très actif sur ce plan. Mais aussi parce qu'il a ses propres projets. Et il faut le voir, cet enfant. Il a une vitalité, une énergie incroyable. Et il sue sang et eau pour quelques sous. Dans ce quartier, vous le disiez, il y a un instant réputé dangereux. Mais pour réaliser son rêve d'aller à Bengue.
Voilà, Bengue. Oui, en fait, comme on l'a dit, d'abord, Moussa a un père qui peut-être a su la... le nécessaire, il y a eu de la nourriture seulement à la maison, mais au-delà de cela, il se soucie vraiment pas de sa famille. Moussa, alors, a grossi le cœur, il veut aider sa mère à tout prix, et au-delà de cela, montrer vraiment à son père qu'il peut réussir et sortir sa mère de cette misère quotidienne. D'où cette envie d'aller à Bengue, car il estime que au pays, c'est difficile pour lui de réaliser ce rêve. Alors, Bengue, à tout prix.
Alors, ça veut dire quoi, Bengue? Ça vient d'où, d'ailleurs?
Bengue, c'est du Noussi, qui est le lago ivoirien. Bengue veut dire l'Europe. Et quand on dit Bengue en Côte d'Ivoire, d'abord, le réflexe numéro un, c'est la France, avant de parler des autres pays. Car, comme on le sait tous, la France a colonisé la Côte d'Ivoire. Alors, déjà, la destination première, d'abord, c'est d'abord la France. Alors, Bengue, c'est l'Europe, la France et autres.
Et de façon générale, ça veut dire quoi? C'est un endroit meilleur?
Non, mais c'est un paradis sur Terre.
C'est l'Eldorado?
Même mieux, même.
Mieux que l'Eldorado.
S'il faut le dire ici, parce que là, c'est le rêve de tout le monde. Et vraiment, Moussa, alors, c'est son rêve depuis tout petit. Quand il voyait souvent les aînés Bengue venir de l'Europe, il les voyait, il parlait de la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, tout ce qui est beau, tout ce qui est rose, l'hiver et autres. Alors, ça fait rêver. C'est ce pourquoi Moussa se battait à tout moment pour réaliser ce rêve, et à tout prix, d'ailleurs.
Mais à quel prix? Parce que on va le voir, cet enfant qui va en effet tout tenter pour partir. Il va s'embarquer clandestin sur un cargo, se faire des faux papiers, des faux visas. Et à chaque fois, ça tourne mal. Il va même aller en prison, où il est très lourdement condamné.
C'est ça.
C'est pas un prix trop lourd à payer, ça, pour aller à Bengue?
En fait, ce prix pourrait être lourd pour une personne qui a un peu d'espoir devant lui. Mais lorsque on a les rêves opprimés, dans une vie permanemment réprimée, on se dit que il n'y a pas de choix. Lorsqu'on est déjà mort chez soi, autant aller mourir ailleurs encore. Alors Moussa s'est dit qu'il n'y a pas lieu de rêver au pays, il n'y a pas de perspective pour lui, qu'il n'a pas de diplôme, qu'il n'a rien du tout, alors autant foncer.
Mais est-ce que c'est si compliqué de vivre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, Yaya Diomandé?
Vous voulez une réponse sincère?
Oui.
C'est compliqué et même pénible, en fait, parce que après 60 ans d'indépendance chez nous, il y a toujours ce qu'on appelle le favoritisme, le clientélisme à échelle industrielle, parce que les hommes ont souvent la chance, en fait, d'avoir un job que par affinité. Voilà, si je connais telle personne, alors telle personne peut me recommander auprès d'une entreprise pour avoir un job, sans quoi c'est impossible. Et quand on vit dans un tel pays, que les diplômés déjà qu'on trouve qui sont mieux placés n'arrivent pas à avoir des jobs, ceux qui sont en bas aussi, avec la pression fiscale et autres, c'est vraiment difficile de s'en sortir. Voilà. Alors autant être proche de ceux qui sont aux affaires pour manger. Quand on n'a pas de parents aisés ou de parents haut classés, c'est impossible en fait de s'en sortir, en toute franchise.
Mais vous, Yaya Diomandé, vous avez fait des études brillantes, vous avez des diplômes. A priori, vous n'avez pas beaucoup de points communs avec Moussa. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire? C'est les enfants que vous voyez autour de vous?
Certes, j'ai des diplômes, certes, mais j'ai pas une condition meilleure que celle de Moussa. Et donc, on a eu le diplôme parce qu'on espérait être à l'abri, en fait, du besoin. C'est ce pourquoi on s'est battu à tout prix pour avoir des diplômes, parce que c'est ce que le système nous impose, en fait. On s'est dit alors qu'avec des diplômes, on pourrait vraiment mieux s'en sortir. Mais malgré cela, malgré ces diplômes qu'on a eus là, on n'a pas une condition mieux que celle de Moussa dans le roman. Alors, quelque part, il y a vraiment une convergence, en fait, de statut social, voilà, qui existe entre l'auteur et vraiment le personnage aussi du livre.
C'est comme ça que l'écriture naît.
C'est ça, évidemment.
Puisqu'on parle de votre écriture, Yaya Diomandé, on va l'entendre, si vous voulez bien, puisqu'il y a un très beau et long poème au cœur de votre roman. Donc, on vous écoute.
À Bobo Marley, à tous les fressants du Noussi, du ghetto et autres, avec du recul, je veux parler d'Abobo Marley, ma source d'inspiration, mon ghetto. Prudence dans l'action, inutile de sortir tôt, tu risques de rencontrer sur ton chemin les ouinzins. Réflexion zéro, tous des zinzins. Ils travaillent à l'abri du regard du soleil. Au nom du travail, ils combattent le sommeil. Les Ambalais sont tous des Nyamboro. Les Anoulais, tous des Choco et Intello par défaut. Nuit blanche et coup de poing au rendez-vous lors des débats. Drogba Eto, Chelsea Barça, Messi Ronaldo, Real Barça, tournoi de Maracana, bilan 1 mort et 5 blessés. Aucun remords, nul ne se sent vexé. Je parle de Marley et non de foyer, encore moins de QG, loin de gorger. Ne mets jamais les pieds à Loubar. Ici, pas besoin de microscope pour voir les plus grands gangsters de la cité. On se voit, on se salue et on se dépasse. Affrontement à la machette, acte banal, ruissellement de sang, fait trivial, abandon de l'école, réalité axiale. Ceux qui s'égarent et refusent de suivre les cours dans les fumoirs sont sans choix, inscrits à l'université de la gare. Prise de dose sans pause, peu importe la cause, les esprits s'endorment et le nouchi est mieux parlé. Bienvenue à Abobo Marley. L'histoire est têtue. Les grands guerriers sont tombés. Les catégories champions se sont tus. Certains sont allés à Bengue. D'autres vivent à la Maca pour 20 ans. Les moins chanceux sont couchés à Williamsville et Biabou. Nous s'y a hier, nous s'y a aujourd'hui, nous s'y a pour toujours. Marlessien est fier. Merci.
Merci beaucoup de nous avoir lu cet extrait de votre roman, Yaya Diomandé. Alors, pour finir, on ne dira pas si Moussa réussit à partir à Bengue ou pas. C'est la surprise que nous réservons aux lecteurs et aux lectrices. Okay. Mais j'ai l'impression que ce roman d'apprentissage, ce roman de formation pour Moussa, que l'on suit de ses 10 ans à ses 30 ans, propose quand même une réflexion sur cette migration vers l'Europe qui fait tant rêver les enfants sur le continent africain, et suggère que c'est peut-être une erreur de vouloir partir à tout prix. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, je ne dirais pas que c'est une erreur de vouloir partir à tout prix. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, lorsque les hommes n'ont pas le choix, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et ces personnes qui ont, au risque de leur vie, tenté de venir en Europe, aujourd'hui, arrivent vraiment à suivre nos besoins de leurs parents.
Ceux qui ont survécu au voyage.
Évidemment. Vous voyez, vous n'imaginez pas combien peut valoir 100 euros au pays, en fait, en Côte d'Ivoire. 100 euros expédiés des frères migrants ici vers là-bas. Aujourd'hui, je connais certains qui étaient quasiment inutiles au quartier à Abidjan là-bas. Aujourd'hui, qui arrivent à assurer la scolarité de leurs frères et sœurs, de leurs cadets et même à prendre leurs parents en charge. Alors, il faut parfois se mettre dans la peau de ces personnes-là pour comprendre leur réalité, en fait. Quand il n'y a pas de perspective, c'est vraiment difficile. Et comme ils le disent, ils sont parfois comme des kamikazes parce qu'ils se disent « mais je n'ai plus rien à perdre ». Déjà, je suis déjà mourant ici, autant aller mourir. quoique quand même, il serait mieux de passer par une voie légale pour venir en Europe, mais il faut comprendre leur réalité.
Mais en même temps, pardon de me faire l'avocat du diable, mais la petite sœur de Moussa,
oui.
elle réussit. Pourtant, c'est une fille, ce qui n'est, j'imagine, pas très facile. Elle suit sa scolarité, alors que apparemment, ce n'est pas forcément la priorité pour les doulas que les filles soient scolarisées.
Oui.
Elle devient femme d'affaires, elle réussit. Donc, c'est quand même un contre-exemple que oui, à Abidjan, quelqu'un peut réussir et être heureux.
Tout à fait, c'est possible. En fait, je parle en fait pour la masse, la majorité en fait. Il y a une minorité quand même qui arrive à sortir du lot, mais la majorité, c'est vraiment difficile un peu. C'est ce que je veux montrer surtout. Voilà. Sinon, le cas de Fatim, oui, Fatim arrive à payer sa scolarité grâce à Moussa, qui était arrivé à ce moment. Et après, avec tout ce qu'elle a acquis à l'école, elle arrive à développer le business de son frère qui était laissé aux abandons, là, et pour venir en Europe. Oui, c'est vrai.
Et puis, on est heureux en famille, on se soutient.
Ah, c'est ça.
Ça, c'est important.
C'est tout.
Plutôt que d'être seul, loin.
Non, la communauté, elle a une grande valeur, alors c'est ça.
Est-ce que vous aimeriez, Yaya Diomandé, que Abobo Marley soit lu en Côte d'Ivoire, avec toutes les réserves que vous avez émises en première partie de l'émission, que les gens s'intéressaient moins à la lecture, mais bon.
Déjà, Abobo Marley fait la fierté quand même de nos frères, parce que imaginez que le quartier Abobo Marley qui est mal vu à Abidjan soit cité déjà sur RFI, c'est très grand. Hier, j'ai vu une publication d'un membre du jury qui est le professeur José Guebo, qui a fait une publication, j'ai vu des commentaires là, des gens qui étaient venus dire « Ah oui, Abobo est relevé là, ça fait grand en fait ». Alors, c'est sûr que les gens seront heureux quand même de voir l'œuvre et de lire sûrement.
Et la suite, à votre retour à Abidjan, écrire un autre roman?
J'écris déjà, même actuellement j'ai écrit un roman sur la vie des brouteurs, et là ça sera très intéressant. Les brouteurs, c'est les anarchiques en fait, des jeunes ivoiriens ou africains, pas seulement ivoiriens, qui anarchent les occidentaux, déjà à partir de cybercafés. Voilà, et ça serait un roman aussi poignant que Abobo Marley.
Donc là, il y a tout un nouvel horizon qui s'ouvre à vous.
Évidemment. Et j'aime vraiment varier tout ce que j'écris. J'aime pas forcément rester sur un seul plan. J'aime vraiment varier. Alors vous ne serez pas étonnés, ça sera très intéressant aussi.
On n'en doute pas une seconde. Merci beaucoup, Yaya Diomandé, d'être venu nous raconter ici à RFI en avant-première cette grande aventure du prix Voix d'Afrique que vous venez de recevoir pour ce premier roman intitulé Abobo Marley, paru aux éditions Jean-Claude Lattès, copartenaire de cette nouvelle récompense qui encourage l'émergence des nouvelles plumes du continent africain et que RFI est très heureuse d'accompagner. Et puis, pour ceux qui habitent Paris ou qui ont l'intention d'y venir prochainement, je signale que le vendredi 2 octobre, une soirée événementielle aura lieu à la Maison de la Poésie où vous rencontrerez le grand public avec aussi à vos côtés un comédien qui lira des extraits de votre roman. Et merci à toutes celles et ceux que je ne peux pas citer mais qui ont travaillé en coulisses pour ce prix qui, nous l'espérons, se poursuivra pour une deuxième édition l'année prochaine. Mais en attendant, les deux mots de la fin, Abobo Marley.
Merci à vous, merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.